Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Les matins de France Culture, Quentin Lafay.
L'affaire Julian Assange est une histoire sans fin, emblème de la liberté d'expression pour les uns, hacker et espion pour les autres. Le cofondateur de Wikileaks poursuit sa bataille judiciaire depuis sa cellule londonienne. Ce mardi 20 février, la justice britannique a commencé à examiner le recours du journaliste australien contre son extradition vers les États-Unis. Julian Assange espère obtenir une audience de la dernière chance, mais si les juges rejettent sa demande, il sera envoyé aux États-Unis et jugé pour espionnage. Une hypothèse qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors que révèle le cas Assange de l'état de la liberté de la presse? Pour en parler, je reçois ce matin Olivier Tesquet. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à la cellule Enquête de Télérama, co-auteur avec Guillaume Ledy de l'essai intitulé « Dans la tête de Julian Assange ». C'est un essai paru aux éditions Actes Sud en 2020. Et pour commencer, cette procédure est présentée comme l'ultime recours de Julian Assange. Pourquoi?
Bah parce qu'en fait, c'est la dernière marche avant l'extinction de la procédure au Royaume-Uni. C'est-à-dire que d'abord, l'extradition avait été refusée par une première juge au motif de la santé précaire de Julian Assange il y a 3 ans. Finalement, les autorités américaines avaient apporté des garanties sur sa détention éventuelle aux États-Unis qui avaient convaincu les juges, puisque finalement, l'ordre d'extradition avait été signé l'été dernier. Il fait appel de cette extradition. La Haute Cour de justice examine la possibilité de faire cet appel, mais s'il se n'est pas possible, et s'il est refusé de former ce dernier recours, il lui restera plus qu'une dernière cartouche, mais qui ne relève pas du droit britannique, qui est la Cour européenne des droits de l'homme, que ses avocats ont d'ailleurs déjà annoncé qu'il saisirait.
Alors si Julian Assange est extradé vers les États-Unis, il encourt 175 ans de prison pour espionnage. Il faut nous rappeler quels sont les faits qui lui sont reprochés par les États-Unis.
Alors, les faits qui sont reprochés couvrent une période assez précise, en fait, hein, de l'histoire de Wikileaks, qui correspond à l'année 2010, essentiellement, qui est l'époque où Wikileaks arrivait comme ça, avec fracas sur la scène médiatique et politique, révélait dans de grandes fuites massives des informations sur la guerre en Irak, sur la guerre en Afghanistan, sur la conduite de la diplomatie avec la publication de télégrammes diplomatiques, etc., le tout en coopération avec des grands médias internationaux, que ce soit le New York Times, le Guardian, au Royaume-Uni, Le Monde en France, etc. Et donc c'est cette période-là, donc l'activité finalement qui aura été la plus journalistique hein, de la vie de WikiLeaks, qui est visée par la procédure américaine.
À l'issue de ces 2 jours de procédure, Olivier Tesquet, quels sont les scénarios envisageables, les scénarios possibles?
Alors déjà, on ne sait toujours pas si la décision sera communiquée tout de suite ou s'il faudra attendre. Si d'aventure il pouvait faire appel de cette décision, on repartirait pour un round procédural au Royaume-Uni. Et dans l'hypothèse où la possibilité de faire cet appel lui serait refusée, dans ce cas-là, on aurait la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'est pas suspensive. Donc il faudrait surveiller, guetter, on va dire, la réaction des autorités britanniques, notamment savoir est-ce qu'elle prendrait le risque de le mettre dans un avion sans attendre la décision de la juridiction européenne.
Depuis plusieurs années maintenant, Julian Assange est incarcéré dans la prison de Belmarsh, une prison parfois qualifiée de Guantanamo britannique. Que sait-on exactement des conditions de détention de Julian Assange?
Bah, c'est des conditions assez strictes, c'est-à-dire que Belmarsh est une prison qu'on a surnommée et qu'on surnomme le Guantanamo britannique parce que elle héberge beaucoup de criminels qui ont été condamnés pour terrorisme. Julian Assange vit dans des conditions qui se rapprochent finalement des conditions dans lesquelles on vit dans un quartier de haute sécurité qui pourrait être d'ailleurs les conditions dans lesquelles il vivrait aux États-Unis s'il devait être extradé, c'est-à-dire qu'il est dans une cellule de 2 mètres sur 3 dont il sort très très peu. Il voit sa femme 2 fois par semaine, ses enfants 1 fois par semaine, et puis ça s'arrête à peu près là. D'ailleurs, je note que ses avocats, pendant ces 5 dernières années où il a été incarcéré, ce qui s'assimile finalement à une détention provisoire, n'ont cessé de se plaindre de la difficulté qu'ils avaient à accéder à leurs clients et donc à garantir l'exercice des droits de la défense, ce qui montre bien qu'il est soumis à un régime qu'on pourrait considérer comme un régime d'exception quelque part.
Vous avez mentionné, Olivier Tesquet, la femme de Julian Assange, Stella Assange. Elle répète beaucoup en ce moment que Julian Assange ne survivrait pas à une extradition vers les États-Unis. Est-ce que son état de santé est si inquiétant que cela ?
Ça fait des années que son état de santé est très préoccupant et ça s'arrange pas. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que avant ces cinq dernières années passées à la prison de Belmarsh à Londres, Julian Assange en a passé sept dans l'enceinte de l'ambassade d'Équateur à Londres, où il s'était réfugié pour échapper justement à la possibilité d'une extradition, parce que l'enquête aux États-Unis a été ouverte il y a maintenant plus de 10 ans, même si l'acte d'accusation n'a été révélé finalement, publié que des années plus tard sous Donald Trump. Et donc c'est quelqu'un qui s'est un peu ratatiné physiquement, psychologiquement, etc. Et encore une fois, des experts qui sont venus le voir en prison ces dernières années avaient argué, y compris devant la justice britannique, qu'il y avait un risque sérieux de suicide, notamment dans l'hypothèse où il serait extradé.
Ce qui frappe tout de même dans cette procédure, Olivier Tesquet, au-delà même de ce que l'on pourrait ou non d'ailleurs reprocher à Julian Assange, c'est peut-être la procédure même. Cela fait des années que Julian Assange est détenu sans avoir été jugé. Comment est-ce qu'on l'explique ?
Mais c'est un peu le paradoxe de cette situation, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'actualité Assange revient comme ça à cadence un peu régulière dans les médias à la faveur de la procédure, et on oublie par moment que le fond n'a jamais été jugé, c'est-à-dire que là on ne parle que de la possibilité ou non de l'extrader vers le pays qui réclame qu'il soit jugé sur son sol, mais on n'a jamais jugé devant une cour le contenu de ses révélations, les raisons pour lesquelles il a décidé de publier avec des médias tous ces documents, et du coup on a un peu l'impression qu'on a emprunté un itinéraire bis où l'acharnement et la vengeance se substituent un peu à la justice. Donc c'est vrai que c'est une situation assez particulière, et si demain Julian Assange devait, je ne le souhaite pas évidemment, décéder en détention, je serais quand même curieux de voir le regard qu'on porterait justement sur ces années comme ça de procédure assez kafkaïenne, et de ce qu'elles disent des démocraties dans lesquelles on vit.
Vous qui avez travaillé sur Julian Assange, qui avez même fait paraître avec Guillaume Ledy cet essai intitulé « Dans la tête de Julian Assange », Olivier Tesquet, est-ce que vous le considérez aujourd'hui comme un lanceur d'alerte ou comme un journaliste ?
Moi, je pense qu'il a été un peu tout ça à la fois, c'est-à-dire que il y a beaucoup de débats parfois un peu byzantins pour savoir quelle est la fonction de Julian Assange, mais je crois qu'il a toujours tout embrassé et tout revendiqué à la fois, c'est-à-dire que quand il est arrivé au début des années 2010, c'était à la fois une sorte de reliquat de militant altermondialiste des années 90, très imprégné d'anti-impérialisme américain, lecteur de Chomsky, etc. C'était un activiste de la transparence, c'était un ancien hacker, il s'est improvisé journaliste et rédacteur en chef d'une espèce de méta-rédaction mondiale. Il est devenu lanceur d'alerte un peu par ricochet, parce que c'est vrai qu'on mélange un peu les rôles, mais les documents publiés par Wikileaks ont été fournis par une vraie lanceuse d'alerte qui, elle, a fourni les documents originels, qui est Chelsea Manning, qui, elle, avait aussi d'ailleurs été condamnée à 35 ans de prison avant que Barack Obama commue sa peine en quittant la Maison Blanche. Et je crois qu'il faut réussir à embrasser cette espèce de complexité du personnage qui est tout à la fois et qui est devenu à la fois symbole et repoussoir pour beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'on a d'un côté l'administration américaine ou certains de ses représentants qui considèrent, comme le disait Mike Pompeo, qui était l'ancien directeur de la CIA, que Wikileaks est devenu une agence de renseignement hostile, ce qui dit assez bien en termes de désignation de l'ennemi comment c'est considéré par certains au sein de l'administration américaine. Et pour d'autres, il est devenu le symbole de la lutte contre la corruption, du journalisme un peu aventureux tel qu'on le pratique aujourd'hui. Voilà, c'est Julian Assange, c'est un peu tout ça, c'est un peu tout en nuances de gris, mais il faut pas tout mélanger au moment de justement s'intéresser, on va dire, à ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire le risque que ça ferait peser non seulement sur lui, mais possiblement sur des dizaines ou des centaines de journalistes dans les années qui viennent.
On lit beaucoup, on entend beaucoup ces derniers jours des comparaisons entre Alexei Navalny et Julian Assange, les deux étant soumis à des procédures judiciaires kafkaïennes. Le premier est mort dans sa prison, le deuxième connaît un grand risque pour sa santé. Est-ce que cette comparaison, vous paraît pertinente ?
Alors, c'est sûr que c'est une comparaison. On sent que certains pourraient la considérer oiseuse, d'autres pourraient même la considérer complètement indécente. C'est vrai qu'il ne s'agit pas de comparer le régime poutinien qui empoisonne les opposants Novichok et les déporte dans des goulags contemporains au fin fond de la Russie. Mais on peut quand même considérer que le traitement réservé par ricochet, on va dire là aussi, par les États-Unis à Julian Assange, relève d'une forme d'acharnement, relève d'une forme de d'épuisement, et j'oserais pas dire d'assassinat politique, pour revenir sur la terminologie qu'on utilise avec Alexei Navalny, parce que pour le coup, Alexei Navalny, il y a eu une vraie tentative d'assassinat. Il a quand même été empoisonné à bord d'un avion dont il a été extrait, il a failli laisser sa vie déjà il y a quelques années. On est plus dans un épuisement administratif, comme savent parfois le concocter les démocraties occidentales. C'est plus présentable en apparence, mais je trouve que ça pose un peu les mêmes questions.
Merci beaucoup, Olivier Tesquet. Je rappelle que vous êtes journaliste à la cellule Enquête de Télérama, co-auteur avec Guillaume Ledy de l'essai intitulé « Dans la tête de Julian Assange ». C'est paru en 2020 aux éditions Actes Sud.